Quand j'étais enfant, quelquefois en pleine journée, le glas sonnait au clocher de l'église. C'était un son lugubre et lancinant. J'entendais alors les grandes personnes parler entre elles et j'apprenais ainsi la mort de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais ça faisait quand même un peu froid dans le dos. Ce qui arrive aux gens arrive aussi aux rois et aux empires. Je commence à lire le chapitre 9 de Daniel. Darius, fils de Xerxès, de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. Verset 1. Cette petite phrase, apparemment bénigne, est en réalité très lourde de sens, car elle signifie que le glas a sonné pour l'empire chaldéen, qui avait connu son heure de gloire sous le règne du puissant Nabuchodonosor, le roi qui a mis à sac Jérusalem et le temple et déporté les habitants de Juda. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ et ce sont désormais les Mèdes et les Perses les nouveaux maîtres du Moyen-Orient et Cyrus est le grand patron. Pour des raisons politiques, puisqu'il était allié avec les Mèdes, il a installé Darius sur le trône de Babylone. Nous avons déjà rencontré ce personnage, seulement des doutes planent encore sur son identité, car Darius n'est pas un nom, mais un titre officiel comme roi, tsar, empereur ou pharaon. La fin de l'Empire chaldéen avait du bon parce qu'elle préparait la libération des Israélites, dont certains, comme Daniel, étaient en captivité depuis déjà 66 ans. Je continue. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiquées au prophète Jérémie et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Verset 2. Suite à la victoire de Cyrus sur les Chaldéens, Daniel, qui, on peut en être certain, possédait un recueil des écrits prophétiques, les étudie pour essayer de comprendre la signification de ce chamboulement pour lui et ses concitoyens exilés. Comme il avait interprété le rêve de Nabuchodonosor, il savait que le bâton passerait éventuellement des Chaldéens aux Médo-Perses, mais il ne savait pas quand aurait lieu ce changement de régime. Le prophète Jérémie avait annoncé la destruction du temple et de Jérusalem, l'exil du peuple de Juda, et mentionné à deux reprises les 70 ans de captivité. Effectivement, en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem fut détruite, le temple rasé, et la majorité des Israélites fut emmenée en captivité. Cependant, le châtiment de Dieu avait déjà commencé lorsque Nabuchodonosor avait envahi Jérusalem une première fois en l'an 605 et déporté un certain nombre de ses habitants, dont Daniel. À cette occasion, il avait également emmené avec lui une partie des ustensiles sacrés qui servaient à rendre un culte à l'Éternel. Puis, le roi de Babylone est revenu une seconde fois, 8 ans plus tard. Mais les 70 années d'exil ont commencé à partir de la première venue de Nabuchodonosor, ce qui correspond à la 4e année de Jéhoiakim. Je le mentionne parce que tous les auteurs sacrés le considèrent comme le dernier roi légitime de Juda. Sous le règne de Balthazar, le dernier roi de Babylone, chaldéen, Daniel avait été profondément ébranlé par la vision qu'il avait reçue de l'Empire grec, la puissance qui succédera aux Mèdes et aux Perses, et surtout par l'apparition du roi Antiochus IV Épiphane, parce qu'il sera un puissant et cruel ennemi des Juifs qu'il persécutera à mort. Selon ce que l'ange Gabriel lui avait dit à cette époque, la venue de ce sinistre personnage aurait lieu pendant un temps de faim, donc dans un avenir éloigné par rapport à Daniel. Mais entre-temps, la roue a tourné. L'Empire Médo-Perse succède à Babylone, ce qui donne à Daniel l'occasion de s'intéresser de près à un événement proche et heureux qui lui tient à cœur. Il cherche à déterminer exactement quand les membres de son peuple pourront enfin rentrer chez eux. Or, le prophète Jérémie a établi un lien direct entre la chute de l'Empire babylonien et la fin de l'exil. Je lis de passage. Le pays de Juda tout entier ne sera plus que ruine et terre dévastée. Toutes les nations seront assujetties au roi de Babylone pendant 70 ans, et au bout de ces 70 ans, je demanderai compte de leurs crimes au roi de Babylone et à son peuple. L'Éternel le déclare. Je sévirai contre le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désert pour toujours. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc, dans le principe, dès que Babylone est tombée, les Israélites étaient libres. Mais dans les faits, il y aura un décalage entre ces deux événements. En effet, Babylone fut prise par les Perses en 539 avant Jésus-Christ, mais Cyrus n'a signé le décret impérial autorisant les Juifs à rentrer dans leur pays que dans sa deuxième année comme empereur, qui est aussi sa première comme roi de Babylone. Je continue le texte de Daniel. Alors, je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications, en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendres. Verset 3. J'ai déjà dit que quand Daniel prie, il est sérieux. Il y met tout son cœur, toute son âme et même tout son corps. Aussi louable que soit un tel comportement, il n'aboutit que si Dieu l'agrée. En effet, la possibilité de se repentir, d'intercéder de manière efficace ou d'agir selon la volonté de Dieu est un don qui vient de lui. L'apôtre Paul écrit « C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Et dans un texte qui concerne la fin des temps, l'Éternel dit « Je répandrai sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de pitié et de supplication. Alors, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui, ils pleureront sur lui. » Il ne fait aucun doute que Daniel était mu par l'Esprit de Dieu quand il a pris le sac, s'est couvert de cendres et a jeûné. Soit dit en passant que Jésus, les apôtres et l'Église primitive jeûnaient. Mais ce n'est pas un commandement, on peut le faire ou pas, à chacun de décider en son âme et conscience. Si Daniel porte ces signes de deuil, d'humiliation et de repentance, c'est parce que les Chaldéens ne sont plus au pouvoir, mais son peuple est toujours en exil. Si ceux qui croient en un bon Dieu Père Noël examinaient de près l'histoire d'Israël, ils constateraient que tôt ou tard, Dieu juge le péché. Je continue maintenant le texte. J'adressai ma requête à l'Éternel mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Verset 4. Il est important de remarquer que ce qui a déclenché cette prière de Daniel est son étude des écrits prophétiques et de la loi. C'est dans les textes sacrés que je découvre qui est le Créateur et ce qu'il exige de moi. L'étude des Écritures, suivie de la prière, est le moyen de comprendre les voies de Dieu et de connaître sa volonté. Moïse avait révélé comment l'Éternel se comporterait à l'égard de son peuple. L'obéissance d'Israël entraînerait d'abondantes bénédictions, mais la désobéissance des sanctions sévères, et l'une d'elles serait l'asservissement à des puissances étrangères. L'exil d'Israël à Babylone est donc l'application de ce principe. Mais Moïse a également révélé comment mettre fin au châtiment divin et recevoir les bénédictions promises. Les Israélites devaient revenir à l'Éternel et obéir à sa loi. Alors, il les délivrerait de l'exil et les ramènerait dans leur pays. Daniel sait très bien que les années que son peuple a passées sous la botte babylonienne sont un châtiment divin. Sachant que l'humiliation, la repentance et la confession des fautes sont des conditions nécessaires au pardon de Dieu et au rétablissement d'Israël dans son pays, Daniel se lance dans une longue intercession. Il va même endosser la responsabilité morale du peuple de Dieu auquel il s'identifie. Il avoue et prend à sa charge les péchés que les Israélites ont commis alors que lui-même n'était pas né ou n'y était pour rien. Sa prière de contrition dénote une très grande humilité et un cœur noble. Daniel se sent très concerné par la situation de son peuple parce qu'il sait que son devoir est de le porter devant Dieu, un peu comme le grand prêtre qui, lorsqu'il exerçait ses fonctions, portait sur son habit sacré les noms des 12 tribus d'Israël. Cette prière est très personnelle, ce qui se voit dans l'utilisation fréquente des pronoms « je »,« nous »,« nos »,« notre ». En principe, les gens qui font trop usage de la première personne sont orgueilleux, arrogants ou font une hypertrophie du moi, comme Nabuchodonosor quand il a dit « N'est-ce pas là Babylone, la grande, que moi j'ai bâti pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Mais pour Daniel, c'est l'inverse. Il est par terre, moralement et sans doute physiquement aussi. La prière de Daniel est un modèle. Il commence par invoquer Dieu et reconnaître sa grandeur. Il l'appelle Seigneur Dieu grand et redoutable. Daniel est très conscient de la majesté de la personne à laquelle il s'adresse. Il ne parle pas à l'Éternel comme on le ferait à un copain du quartier. Ensuite, il reconnaît la fidélité de Dieu à son alliance et sa miséricorde envers les pécheurs. Si le Créateur était immensément grand mais ne faisait pas grâce, qui pourrait échapper au jugement? Alors que Jérémie est tout au fond du trou, il écrit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. » Fin de citation. Parce que Dieu est miséricordieux, Israël n'a pas été rayé de la carte, il a été préservé, et pas n'importe où, mais dans le sud de la Mésopotamie, sur les rives du Kébar, l'un de ces canaux qui reliait Babylone à l'Euphrate. La localité s'appelle Tel Aviv, un nom charmant puisqu'il veut dire « colline des épis », ce qui semble indiquer que la région était fertile. Les exilés étaient donc dans un joli coin paisible de l'Empire babylonien. C'est aussi parce que Dieu est fidèle et miséricordieux que je suis encore en vie et vous aussi. Cependant, Dieu demande de ses créatures qu'elles lui obéissent. Je continue la prière de Daniel. « Nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. » Verset 5. Nous sommes dans le vif du sujet, en pleine repentance. Dans cette prière, Daniel va confesser le péché de son peuple à 4 reprises. Ici, il exprime les péchés de son peuple de 4 manières différentes. Littéralement, il dit « Nous avons manqué le but, nous avons été retors, nous avons été méchants, nous nous sommes rebellés. » Ce dernier mot décrit une révolte ouverte, ce qui dans la loi s'appelle « le péché à main levée » et qui engendre le plus haut degré de culpabilité envers Dieu. Daniel est très spécifique dans sa confession et c'est aussi de cette manière que les croyants doivent avouer leur faute en étant précis. Je suis bien d'accord que ce n'est pas très agréable, mais de toute façon, comme Dieu sait absolument tout, à quoi bon essayer d'arrondir les angles? Je continue. « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. » Verset 6. Jérémie écrit « L'Éternel vous a envoyé sans se lasser tous ses serviteurs, les prophètes, mais vous n'avez ni écouté ni prêté attention à son message. » Fin de citation. C'est en vain que les prophètes exhortaient le peuple à revenir à l'Éternel. Les responsables d'Israël, qu'ils occupent un poste exécutif, judiciaire ou religieux, étaient les premiers coupables. Ils ont répondu à Jérémie, « Nous ferons plutôt ce que nous avons décidé. Nous offrirons des parfums à la reine du ciel et nous répandrons des libations en son honneur, comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. » Fin de citation. Je continue le texte. « Toi, Seigneur, tu es juste, et nous, nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs et de nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. » Versets 7 et 8. Daniel reconnaît que l'Éternel a été juste et a bien agi en déportant la population de Juda à cause de son péché et de sa rébellion, et que maintenant les Israélites sont couverts de honte à cause de leur conduite passée. Cette prière ne concerne pas seulement les habitants de Juda qui sont en exil à Babylone, mais tout Israël, ce qui inclut les Israélites des 10 tribus du Nord qui furent déportés par les Assyriens il y avait déjà un peu plus de 2 siècles. À cette époque, certains d'entre eux réussirent à s'échapper et trouvèrent refuge chez leurs frères du Sud, mais maintenant leurs descendants, qui ont participé au même péché que les Judéens, partagent le même sort qu'eux. Daniel porte donc l'ensemble du peuple élu sur ses épaules dans sa prière devant Dieu. Je continue. « Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes alors que nous nous sommes révoltés contre toi. » Verset 9. Littéralement, Daniel dit « Les compassions, les pardons sont au Seigneur notre Dieu. » Le pluriel est important parce qu'il exprime l'abondance, c'est-à-dire le fait que Dieu ne se lasse pas de pardonner et d'avoir compassion. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit quand il écrit « Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. » Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Fin de citation. La pensée de Daniel est donc la suivante. Il faut, et heureusement que tu pardonnes, car un péché comme le nôtre, la rébellion ouverte, à main levée, ne peut être effacée que par un acte de grâce. Le péché d'Israël était tellement grave qu'aucun sacrifice d'animaux ne pouvait le couvrir. Bien sûr, si Dieu a compassion et pardonne, c'est parce que Jésus a offert sa vie en un sacrifice parfait qui efface complètement tous les péchés, y compris les plus horribles que vous pouvez ou ne pouvez pas imaginer de tous les hommes qui acceptent la rédemption et le salut que Dieu leur offre gratuitement. Je continue le texte. « Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu, nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs, les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. » Versets 10 et 11. Daniel confesse à nouveau les fautes d'Israël, qui n'a pas obéi à la loi, qu'il a violée pratiquement de A à Z, et qui a refusé d'écouter le message de Dieu que leur apportait les prophètes. La culpabilité du peuple est immense. Je continue. Alors, la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous parce que nous avons péché contre Dieu. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que dans ce monde, il n'y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tout ce malheur nous a frappés, conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse, et nous ne t'avons pas imploré, Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. » Versets 11 à 13. Même quand ils étaient châtiés pour leur rébellion, les Israélites se cabraient au lieu d'implorer la miséricorde divine. L'expression traduite par « nous ne t'avons pas imploré » est « nous n'avons pas caressé la figure de l'Éternel », c'est-à-dire afin de l'adoucir et de se le concilier. L'hébreu a beaucoup de tournures poétiques. Quand Moïse a donné la loi au peuple, il l'a également averti des conséquences s'il lui désobéissait en énumérant une très longue liste de malédictions. Dieu n'a donc pas pris les Israélites par surprise, surtout qu'il n'a jamais cessé de les avertir par les prophètes et leur a donné beaucoup de temps pour se repentir. Alors, la sentence qui était prévue dans la loi a été appliquée. Je continue. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous, nous ne t'avons pas obéi. Verset 14. L'Éternel s'est appliqué à mettre ses menaces à exécution. Il a dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. » Cette menace de jugement que Dieu a exécutée correspond au malheur annoncé par Moïse. Je lis un passage. « Il arrivera donc qu'autant l'Éternel s'était plu à vous combler et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître. Ainsi vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession. » Quand je considère l'histoire d'Israël, je suis stupéfait par leur dureté de cœur et par leur indifférence à l'égard de l'Éternel. D'abord, je me dis, j'aurais jamais fait ça. Et puis, je me ravise, car je suis malheureusement obligé d'avouer que je ne vaux pas mieux qu'ils étaient.